Bonjour, mes frères. Vous voyez, quand je me lève pour parler, tout le monde est parti. Je ne sais pas pourquoi. Il se passe quelque chose à environ 1 heure d'ici. Ici, c'est un camping magnifique. Je suis sûr que cela a été souligné dans les annonces. J'aimerais commencer aujourd'hui par un article. Je pense qu'il date d'avril de cette année. Il est tiré du magazine Newsweek et il traite des changements de tendance dans la société, notamment de l'évolution naturelle des carrières avec l'avènement de la technologie. Il s'intitule « La génération Z ne cherche pas à faire d'un métier manuel une carrière. » La génération Z ne cherche pas à faire carrière dans les métiers manuels. Les jeunes travailleurs américains abordent les métiers manuels avec prudence, selon de nouvelles données du Pew Research Center. Si certains membres de la génération Z occupent des postes dans le secteur manuel, les données suggèrent que peu d'entre eux ont l'intention de rester dans ce secteur à long terme, puis vient le sous-titre Pourquoi c'est important. Ces résultats mettent en évidence un défi majeur pour les industries qui dépendent du travail physique. Les jeunes travailleurs sont peut-être prêts à accepter des emplois manuels, mais ils ne semblent pas les considérer comme des carrières viables à long terme. Malgré l'augmentation des salaires dans de nombreux métiers, la perception des emplois manuels comme physiquement exigeants, peu flexibles et offrant des perspectives d'évolution limitées reste un obstacle pour la génération Z, qui accorde une grande importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à l'évolution de carrière. J'ai grandi en travaillant pour mon père, qui était propriétaire de La Bouche Repère et Sperluette en remodeling. J'ai beaucoup de bons souvenirs de projets réalisés avec mon père. Il travaillait à la fois dans le secteur résidentiel et commercial. Il s'occupait de l'entretien de nombreux magasins que vous connaissez, comme Costco ou Five Guys Burgers et Sperluette Free, mais c'était après mon départ. Il s'agissait de travaux de plomberie, d'électricité, de menuiserie, etc. Je ne prétends pas être un professionnel, mais j'ai été exposé à toute la gamme des métiers. Il était tellement doué que si personne ne savait comment faire, on savait qu'il fallait l'appeler. Il était en quelque sorte la dernière ligne de défense. Si vous ne saviez pas comment faire ou si vous étiez intelligent, il était la première ligne de défense, car vous pouviez l'appeler en premier et être sûr que le travail serait bien fait. J'ai grandi en côtoyant les métiers manuels. Mon père a appris de son père, comme la plupart des gens au fil des siècles. Son père était cordonnier, charpentier et agriculteur. Les gens étaient plus polyvalents autrefois, ils apprenaient tout ce qui se présentait à eux et avaient donc une expérience plus large. La grande majorité des métiers mentionnés dans la Bible étaient des métiers manuels. Vous savez, il n'y avait pas d'optimiseur, de moteur de recherche ni d'analyste de données tels que nous les connaissons aujourd'hui, ni beaucoup de ces emplois très recherchés ou très demandés dont on entend parler de nos jours. Il y avait des agriculteurs. Il y avait des bergers, des vignerons, des oléiculteurs. Vous trouverez tous ces métiers dans la Bible, bergers, laboureurs, moissonneurs, maçons, potiers, tisserands, fileurs, forgerons, orfèvres, argentiers, métallurgistes travaillant le laiton et d'autres métaux, maroquiniers, fabricants de tentes, sculpteurs sur bois, et la liste est encore longue. Des boulangers, des cuisiniers, des vignerons, tous des métiers très liés à l'artisanat, au travail manuel, à la fabrication de produits pour d'autres personnes. Passons au chapitre 13 de Matthieu, Matthieu 13. Pour continuer notre explication, voyons où je veux en venir. Matthieu 13, verset 44. Christ dispense une connaissance incroyable à son auditoire. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qui, dans sa joie, est allé vendre tout ce qu'il avait et acheter ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, parlant de la valeur du royaume. Et ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé, a vendu tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet mis en mer et jeté sur toute la mer. Il se couvrit de toutes sortes de poissons. Et, quand il fut plein, les pêcheurs le tirèrent, et se mirent à le mettre dans des nasses, et à jeter le filet avec force. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'entre les justes et les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura alors des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris ces choses ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur, les disciples. » Alors il leur dit, « Tout scribe qui a été formé pour le royaume des cieux est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Christ apportait de nouvelles informations à son auditoire. Il disait des choses que personne n'avait jamais prononcées auparavant, expliquant des choses qui étaient enfermées dans les Écritures avant son arrivée. Il magnifiait la loi. Il expliquait les mystères du royaume qui n'avaient jamais été connus auparavant. Et les gens étaient choqués par ce qu'ils entendaient, comme nous le verrons ici. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, qu'il s'en alla de là. Et quand il vint dans son pays, il leur enseignait, pourrait-on dire, les mêmes choses. Partout où il allait, il prêchait le royaume de Dieu et expliquait les choses relatives au royaume de Dieu. Il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « D'où a cet homme cette sagesse et ces miracles ? Comment a-t-il appris ces choses ? D'où cela vient-il ? Et pourquoi était-il stupéfait ? Il demandait, « N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Josas, Simon et Judas ? N'est-ce pas le fils du charpentier qui aurait appris le métier de son père ? Son père présumé, Joseph, le père que Dieu a placé dans sa vie. N'est-ce pas un ouvrier manuel ? Il n'est pas l'un des scribes. Il n'est pas l'un des pharisiens. Il est charpentier. Il exerce l'un de ces métiers que peu de gens veulent exercer aujourd'hui, en particulier les jeunes. Or, charpentier, c'est un artisan, plus précisément un artisan du bois, et ce n'est pas un hasard si Dieu l'a placé dans une famille où il apprendrait ce métier, car Dieu lui-même est un bâtisseur. Dieu lui-même est un artisan. Il est le créateur. Il est l'artisan ultime, si je puis m'exprimer ainsi. Quelle est la toute première chose que la Bible rapporte que Dieu a faite ? Ouvrez votre Bible au chapitre 1 de la Genèse. Nous parlons de Dieu en tant que bâtisseur, et nous allons examiner les leçons que nous pouvons tirer de la construction aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que Dieu a soigneusement choisi la profession du Christ. Regardez le Père lui-même ici, dans Genèse 1, verset 1. Au tout début, le tout premier verset de la Bible montre Dieu en train d'agir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous pourrions dire qu'il a construit le ciel et la terre. Dieu est le constructeur ultime. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière de ténèbres. Au verset 7, il fit le firmament. Je le remarque ici au hasard. Au verset 16, il fit de grands luminaires, la lune et le soleil. Il les plaça dans le firmament, au verset 17. Au verset 21, il créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meulent. Dieu est un bâtisseur. Il créa les bêtes de la terre, verset 25. Verset 26, il dit, faisons, car nous savons qu'il s'agissait d'une entreprise impliquant deux êtres, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous savons que nous avons sa nature dans un certain sens, ce qui explique en partie pourquoi nous sommes des êtres créatifs. Nous sommes conçus pour construire. Nous sommes conçus pour fabriquer des choses qui nous aident dans cette vie et qui aident les autres. C'est au cœur de notre identité en tant qu'enfants du grand Créateur. Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, et ainsi de suite, puis au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, ce qu'il avait construit, ce qu'il avait créé, et voici, cela était très bon. Dieu appréciait ce qu'il avait créé. Or, cette création ne se produit pas simplement par décret, car nous tirons ici des leçons de la construction, des leçons du processus créatif de Dieu, des leçons du métier de la construction, quelle que soit la manière dont vous souhaitez le formuler. Cela ne se produit pas simplement. Ésaïe, chapitre 40. Silence, maintenant, pensez à la construction d'une maison et aux outils que vous utilisez, ou même à l'assemblage d'une étagère, aux outils que vous utilisez. À une réparation, aux outils que vous utilisez. À un ajout, aux outils que vous utilisez. À la cuisson d'un gâteau, aux outils que vous utilisez. Eh bien, Dieu, bien sûr, a son propre ensemble d'outils. Ésaïe 40 et verset 12. Qui a mesuré? Mesurer est un processus. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Cela en dit long. D'une part, Dieu n'a pas décidé au hasard, « Oh, tu sais, je vais juste voir combien d'eau remplit les océans. » Non, il a soigneusement mesuré les eaux qui seraient placées sur la terre, comme nous le lisons dans le premier chapitre de la Genèse. Cela en dit long sur sa taille. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Rire, nous avons appris à quel point Dieu est grand grâce à cette série extraordinaire. Imaginez un être si grand qu'il pourrait contenir toutes les mers, les rivières, les océans, les lacs, les aquifères. Il pourrait contenir tout ce volume d'eau dans la paume de sa main s'il choisissait d'être aussi grand à un moment donné. Incroyable. Et il a mesuré les cieux. D'accord. Si vous mesurez quelque chose, vous le calculez. Quelle règle utilise-t-il? Et il a mesuré les cieux avec la longueur de son bras, c'est-à-dire la longueur de ses doigts écartés. Il a donc calculé la largeur des cieux à l'aide de la largeur de sa main, comme le font encore parfois les constructeurs. Si vous avez déjà vu comment les Amish calculent approximativement les distances, ils utilisent encore la largeur de la main. Beaucoup de gens utilisent la largeur de la main pour calculer. Eh bien, Dieu dit, j'ai calculé la largeur du ciel avec ma main. C'est un être extraordinaire, mais aussi quelqu'un qui utilise des outils pour construire. Nous parlons ici de construire des choses physiques. Bien sûr, il construit des choses spirituelles dans nos vies. Nous y viendrons. Dieu, en tant que constructeur, utilise certains outils. Il a mesuré les cieux d'un coup de main, c'est-à-dire de l'étendue des doigts, et il a embrassé la poussière de la terre d'un regard. Je sais que beaucoup de femmes utilisent probablement une balance pour cuisiner. C'est plus précis que le volume. Si vous êtes comme moi, vous avez parfois essayé de cuisiner en vous disant, « Oh, je vais mettre tant de farine, et cela se termine en catastrophe. » Certains d'entre vous sont peut-être capables de le faire à l'œil. Je n'ai pas toujours eu autant de succès, mais je mesure les ingrédients. Un outil dans la cuisine. Et peser les montagnes et les collines sur une balance, mais il ne se contente pas d'utiliser des outils. Il réfléchit à tout à l'avance, comme nous allons le voir ici. Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, ou qui, étant son conseiller, lui a enseigné? Maintenant, il imagine ces choses dans son esprit, lui est Christ. Avec qui a-t-il pris conseil, qui l'a instruit et enseigné dans la voie du jugement, qui lui a donné la connaissance et lui a montré le chemin de l'intelligence? Il est à l'origine de ces choses, mais il les réfléchit avant d'agir, tout comme un constructeur suit un plan, réfléchit avant de s'attaquer à un projet, ou sait comment effectuer une réparation avant de s'y mettre, sinon il risquerait d'aggraver le problème. Voici, les nations sont comme une goutte dans un seau, verset 15, et elles sont comme la poussière sur la balance. Voici, il prend les nefs comme un petit rien. Le Liban ne suffit pas pour brûler, et ces bêtes ne suffisent pas pour un holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Eh bien, quand on est assez grand pour contenir toute l'eau de la terre dans le creux de sa main, on comprend pourquoi. Elles sont pour lui moins qu'un rien, qu'une vanité. À qui comparerez-vous Dieu, ou à quoi le comparerez-vous? L'ouvrier humain, font une image taillée, et l'orfèvre la recouvre d'or et en fait des chaînes d'argent. Ces incroyables compétences sont ici utilisées à mauvais escient. Elles sont faibles en comparaison des compétences de Dieu en matière de construction, en comparaison de Dieu en tant que bâtisseur. Et arrivons au verset 26, « Levez les yeux en haut, et regardez qui a créé ces choses, qui fait sortir leur armée par nombre, qui les appelle toutes par leur nom, et ainsi de suite. » Dieu est le Créateur ultime, mais il utilise des techniques. Il utilise des éléments de conception qu'il a imaginés, des outils qu'il a imaginés, des principes qu'il a imaginés et dont il veut que nous tirions des leçons. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si Christ était charpentier. Ce n'est pas un hasard s'il a intégré dans ses paraboles, à maintes reprises, des éléments de construction que nous avons commencé à examiner, mais que nous continuerons à examiner. Christ, Jean 1, silence, Jean chapitre 1, silence, il était là depuis le tout début. Jean 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Christ était là, employant les mêmes techniques que le Père, construisant à la demande du Père. Revenons sur ce point tout en continuant à examiner ses principes, et reconnaissons quelque chose. Vous avez toujours eu au ciel un être qui est le Créateur ultime, qui a imaginé tout ce qui nous entoure, qui a toujours eu à ses côtés un être qui a fait toutes les choses que nous voyons autour de nous sous la direction du Père. Et si vous voulez aller plus loin, compte tenu de ce que nous avons récemment appris au sujet de ces quatre bêtes, également appelées les quatre charpentiers, ils ont devant eux quatre êtres impressionnants qui sont également charpentiers. C'est donc très important pour Dieu, et il y a beaucoup de leçons à tirer de ce sujet. Deux charpentiers avec quatre charpentiers devant eux. Incroyable! Vous pourriez penser que ces quatre charpentiers sont une équipe de démolition, d'après ce que nous avons entendu la semaine dernière, mais ce sont des charpentiers. Ils ont des compétences. Peut-être font-ils des créations, sous la direction de Dieu. C'est un sujet très important pour Dieu. Le premier principe que nous allons examiner, nous avons déjà examiné certains principes, mais le premier principe sur lequel nous allons nous concentrer est le fait que les fondations d'un bâtiment sont essentielles. On pourrait dire qu'un bâtiment peut se passer de nombreux éléments, comme la plomberie. La plupart des bâtiments ont été construits sans plomberie pendant des milliers d'années. Ils pourraient être dépourvus d'électricité. La plupart des bâtiments ont été dépourvus d'électricité pendant, encore une fois, des milliers d'années. Mon père a grandi dans une maison sans électricité ni plomberie. Je me souviens, je crois l'avoir déjà mentionné, avoir installé la plomberie dans la maison de ma grand-mère en 2006. Avant cela, tout fonctionnait très bien sans. Un bâtiment peut survivre avec quelques barres d'eau manquant. Le toit sera endommagé. Un bâtiment peut survivre sans gouttière. Vous aurez de l'érosion autour de votre maison. Mais un bâtiment ne peut pas survivre sans fondation, c'est impossible. Il s'effondrera. Les fondations sont essentielles. Je me souviens d'un chantier, l'un des derniers que j'ai fait avec mon père, il y avait la maison de quelqu'un. C'était une propriété louée à une certaine personne. Il y avait deux problèmes. L'un concernait la plomberie à l'intérieur, et l'autre était que le sol s'effondrait à l'intérieur. Le problème de plomberie était grave, mais l'affaissement du sol était encore pire. C'était un problème de fondation. Et nous n'avions pas la clé du bâtiment, ou plutôt de la maison. Mon père a donc appelé la propriétaire et lui a demandé de nous apporter la clé. Nous avions déjà constaté que les fondations s'affaissaient à l'intérieur de la maison. Il fallait passer sous la maison pour réparer cela. Vous savez sans doute que la plupart des maisons dans le sud des États-Unis ont un vide sanitaire, différent des sous-sols du nord, où il faut vraiment descendre sous le niveau du sol gelé. Et ce vide sanitaire n'avait pas de porte d'accès pour passer sous la maison. Pendant que nous attendions que la clé arrive pour régler le problème de plomberie à l'intérieur, il fallait bien sûr commencer à démolir des blocs et à créer un linteau pour accéder au vide sanitaire. Nous étions en train de le faire afin de pouvoir passer sous la maison et régler le problème de fondation. Et quelques heures plus tard, la dame arrive, complètement hors d'elle-même. Vous auriez pu attendre. Vous n'étiez pas obligé. Vous voyez, elle pensait que nous étions en train de creuser dans la maison pour faire les travaux parce que nous attendions la clé après tout ce temps. Nous avons dû lui expliquer, non, nous devons aller sous la maison pour réparer les fondations. Heureusement, elle a compris et est passée à autre chose. Mais nous avons ensuite dû soulever la maison et réparer les éléments structurels défectueux, sinon le sol aurait fini par s'effondrer. Une catastrophe pour un bâtiment. Maintenant, en tant que frères et sœurs dans l'Église de Dieu, nous avons des fondations très solides sur lesquelles nous nous appuyons. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2. Dieu, en tant que sage bâtisseur et maître d'œuvre, s'est assuré que nous ayons des fondations parfaites, incroyablement solides. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, dans Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'incompatibilité, la loi des commandements dans les ordonnances, pour créer en lui-même une seule humanité. Il a aboli en sa chair l'inimitié, la loi des commandements dans ses ordonnances, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, en établissant la paix, et afin de réconcilier tous les hommes avec Dieu en un seul corps, par la croix, en détruisant l'inimitié, et de venir annoncer la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons tous accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Or, Christ était parfait. Les apôtres et les prophètes ne l'étaient pas, mais nous avons leurs écrits, et tout ce qui a été inclus dans la Bible est parfait. Mais nous avons les fondements des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire, et nous sommes édifiés sur ses fondements. En lui, tout l'édifice, bien coordonnée, s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu par l'Esprit. Ici, Christ est appelé la pierre angulaire. J'ai tapé « pierre angulaire » dans Google, et voici l'explication qui m'a été donnée. Ce n'est pas très courant dans les bâtiments d'aujourd'hui, mais c'est très important. Une pierre angulaire est une pierre physique ou, au sens figuré, un élément crucial qui sert de fondation à une structure, agissant, excusez-moi, comme fondation à une structure, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'un concept. En architecture, et c'est essentiel, c'est la première pierre posée lors de la construction qui sert de point de référence pour toutes les autres pierres et qui détermine l'orientation du bâtiment. Métaphoriquement, une pierre angulaire représente quelque chose d'essentiel, d'indispensable ou de fondamental pour une entité ou une idée plus large, selon les définitions du dictionnaire. Nous reviendrons plusieurs fois dans ce message sur le fait que Christ est la pierre angulaire. Mais pour l'instant, réfléchissez à ce que cette définition nous dit. Cette pierre dans un bâtiment, et à plus forte raison dans l'Église, devait être posée à la perfection. Elle était parfaitement de niveau, parfaitement d'aplomb, parfaitement située, car toutes les autres rangées de pierres, tous les autres morceaux de bois étaient construits par rapport à elle. Ainsi, si cette pierre angulaire n'était pas parfaite, tout le bâtiment serait de travers, bancal ou comme vous voulez l'appeler. Ce ne serait pas vrai. Dieu a donc posé une pierre angulaire, puis il a flanqué cette pierre angulaire, intégré dans cette fondation d'autres pierres, et c'est là le fondement de l'Église, la pierre angulaire, les apôtres et les prophètes. Or, Dieu n'aime pas les fondations en parpaing. Les fondations en parpaing sont bonnes. Il aime les fondations magnifiques. Ouvrez le premier livre des rois. Silence, nous devons avoir des fondations solides, et c'est le cas. L'Église de Dieu en a une. Le premier livre des rois, et vous pensez peut-être à l'histoire de la construction du temple qui commence au chapitre 6, mais en fait, elle commence au chapitre 5. Pour notre propos, le premier livre des rois, chapitre 5. Silence, regardez le temple physique, qui, bien sûr, est parallèle au temple spirituel, et voyez combien ces pierres de fondation étaient importantes dans la pensée de Dieu. Premier livre des rois, chapitre 5, verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya à ses serviteurs vers Salomon, car il avait appris qu'on l'avait oint roi à la place de son père. Hiram était en effet un ami de David. Salomon envoya dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qui l'entouraient de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis tous ses ennemis sous la semelle de ses pieds. Mais maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous côtés, et il n'y a plus d'adversaire ni de malheur. Et voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. » Or, Salomon, guidé par Dieu, ayant reçu la sagesse de Dieu, aurait compris que les fondations sont sans doute la partie la plus importante d'un bâtiment. Et le Seigneur dit à David, « Mon père, ton fils, que je mettrai sur ton trône à ta place, bâtira une maison à mon nom. Maintenant, ordonne donc que l'on me coupe des cèdres du Liban, et mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai le salaire de tes serviteurs, selon tout ce que tu auras fixé, car tu sais qu'il n'y a parmi nous personne qui sache tailler le bois comme les Sidoniens. Et pensez aux cèdres qui ont été apportés, mais il y a plus ici que le bois qui a été taillé. » Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il se réjouit beaucoup et dit, « Béni soit l'Éternel, qui a donné à David un fils sage à la tête de ce grand peuple. » Un sage, pourrait-on dire, Un maître d'œuvre dans ce sens, je veux dire, c'était le plus grand projet architectural que le monde ait jamais vu et peut-être ait jamais vu. Quand on pense à tous les matériaux qui ont été utilisés et à l'importance de la structure. Verset 8, Hiram envoya dire à Salomon, « J'ai examiné ce que tu m'as envoyé, et je ferai tout ce que tu désires au sujet du bois de cèdre et du bois de sapin. Mes serviteurs le transporteront du Liban jusqu'à la mer, et je le mettrai par mercredi sur des radeaux. Vous savez, un poids énorme, sur des radeaux jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Je les ferai décharger là, et tu les recevras et accompliras mon désir en donnant de la nourriture à ma maison. » Tel était l'échange. Hiram donna donc à Salomon des cèdres et des sapins, des éléments de construction, selon tout ce qu'il désirait. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de blé pour la nourriture, 20 000 mesures d'huile pure, qu'il donna à Salomon, année après année, et l'Éternel donna à Salomon la sagesse, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Salomon leva une levée sur tout Israël, et la levée fut de 30 000 hommes, qu'il envoya au Liban, 10 000 par mois, par classe. Ils passaient un mois au Liban et 2 mois à la maison, et Adoniram était chef de la levée. Salomon avait 70 000 hommes pour porter les fardeaux et 80 000 pour tailler la pierre dans les montagnes. Outre les chefs de Salomon qui étaient préposés au travail, il y avait 1 300 hommes qui commandaient à ceux qui faisaient le travail. Et le roi donna l'ordre, et l'on apporta des parpaings, du ciment, des olives, vous voyez. On apporta de grandes pierres, des pierres de prix, et des pierres taillées pour poser les fondations de la maison. Les constructeurs de Salomon et les constructeurs d'Hiram les taillèrent, ainsi que les tailleurs de pierres, et ils préparèrent le bois et les pierres pour construire la maison. Les tailleurs de pierres, ceux qui auraient fait de cette pierre la pierre angulaire du temple, parfaite, tout comme notre pierre angulaire qui forme le fondement de l'église est parfaite, afin qu'une référence pour le reste du bâtiment soit établie et que le bâtiment soit carré et tienne debout, agréable à voir et sûr à entrer. Apocalypse 21. Dieu ne se contente pas de fondations solides. Il veut des fondations magnifiques. Voici un aperçu de la Jérusalem céleste. Les fondations sont essentielles. Nous allons y jeter un œil. Nous nous tenons collectivement sur les fondations du Christ, des apôtres et des prophètes, mais nous allons très bientôt examiner nos propres fondations. Apocalypse 21. La Jérusalem céleste, verset 10, Apocalypse 21, 10. Et il m'emporta en esprit sur une grande montagne élevée, et me montra la grande ville, la Jérusalem céleste, qui descendait du ciel, de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et 12 portes, et à ses portes 12 anges, et les noms des 12 tribus d'Israël étaient écrits sur ses portes. Or, cette muraille doit bien sûr avoir des fondations solides, afin de ne pas s'effondrer. Il n'est donc pas étonnant que, au verset 19, nous lisions, « Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe. Le deuxième, de saphir. Le troisième, de chalcédon. Le quatrième, d'émeraude. Le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardias. Le septième, de chrysolite. Le huitième, de béryl. Le neuvième, de topaze. Le dixième, de chrysoprase. Le onzième, d'hyacinthe. Et le douzième, d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, et chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme de l'air infondé et pur. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Quelle image étonnante de la valeur que Dieu accorde à une fondation solide, une fondation carrée, une fondation solide, mais aussi une fondation magnifique. Maintenant, beaucoup de leçons vous viennent probablement à l'esprit en entendant cela. Nous allons approfondir certaines d'entre elles, mais une question se pose ici, car nous aussi, nous sommes des pierres sur cette fondation. Parce que cette pierre angulaire a été parfaitement placée, nous pouvons être parfaitement placés dans le corps de Christ. Première épître de Pierre, chapitre 2. Dieu ne nous place pas au hasard dans son magnifique édifice, dans le temple. Il nous place soigneusement, excusez-moi, dans cet édifice, en utilisant soigneusement Christ, les apôtres et les prophètes comme point de référence, car il veut un édifice, comme nous l'avons vu, qui soit bien construit, solide, sans faille, qui ne s'effondrera pas. Première épître de Pierre, chapitre 2, rejetant, verset 1, toute malice, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie, toute calomnie, comme des enfants nouveau-nés, désirez-le les purs de la parole, afin que par lui vous grandissiez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ceux qui ont connu la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu est précieuse. Il a été rejeté par les habitants de sa propre ville, qui ont dit, Oh, est-ce le fils du charpentier? Pourquoi l'écouterions-nous? Rejeté et raillé à travers les siècles, incompris même par ceux qui se disent ses disciples depuis des siècles, qui ont rejeté sa parole, la parole de Dieu, à chaque occasion, y compris les paroles même que Christ a apportées comme parole, rejeté, rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu et précieux dans un but très précis, celui d'être la pierre angulaire, le point de référence. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est aussi contenu dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Pour vous donc qui croyez, il est précieux, mais pour ceux qui n'obéissent pas, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Ils ont dit, ce n'est pas la bonne pierre angulaire. Ce n'est pas la bonne pierre de fondation. Ce n'est pas la personne sur laquelle nous devons baser nos repères nord, sud et ouest. Il n'était pas celui qu'ils avaient à l'esprit. Ils avaient leur propre image de ce que Dieu devait être, de ce à quoi Dieu devait ressembler, de la façon dont Dieu devait agir et dont les humains devaient agir. C'est donc pour vous qui croyez qu'il est précieux, mais pour ceux qui n'obéissent pas, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire, la pierre la plus importante du bâtiment. J'ai dit que nous reviendrions sur ce concept, et nous venons de le faire, mais nous y reviendrons encore une fois, car c'est très important et parce que cela se retrouve partout dans les Écritures. Qu'en est-il donc de notre fondement personnel? Dieu nous a donné un fondement formidable. Nous sommes fondés sur elle, sur Christ, les apôtres, les prophètes, leurs exemples, leurs paroles, sur ce que Christ fait pour nous aujourd'hui en tant que médiateur, sur ce qu'il a fait pour nous en tant que sauveur. Qu'en est-il de nos propres fondements, de nos fondements personnels? Car nous devons être des pierres solides et vivantes si nous voulons être sur cette pierre angulaire, référencée à partir de cette pierre angulaire. Qu'en est-il de nos propres fondements? Qu'en est-il de nos propres fondements? Matthieu 7, verset 15. Matthieu chapitre 7. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs, a averti Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillit-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Il parle ici du caractère. De même, tout arbre bon produit de bons fruits, mais un arbre corrompu produit de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre corrompu produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles? Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Or, ils avaient un problème. Ils avaient de mauvais fruits dans leur vie, et cela n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas seulement dû aux circonstances de la vie. Vous savez, la malédiction sans cause ne vient pas, je crois que c'est ce que disent les proverbes. Il y a une raison pour laquelle ils ont produit de mauvais fruits, et une raison pour laquelle ils subiront le sort qui vient d'être décrit. Et ici, Christ l'explique. C'est pourquoi, c'est-à-dire à la suite de tout ce que je viens de dire, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et nous pourrions ajouter les paroles des apôtres et les paroles des prophètes, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur des fondations solides. Nous pourrions dire sur le roc qui est Christ, mais regardons une maison physique. Si ses fondations ne sont pas en dessous de la ligne de gel, ou si elles ne reposent pas sur le roc, ou si elles ne sont pas correctement fixées selon les spécifications d'un ingénieur, vous avez un problème. Elle bougera. Elle finira par être soumise aux intempéries, aux changements de température, et elle peut s'effondrer, ou être endommagée de manière irréparable, être condamnée si elle n'est pas construite sur des fondations solides. Et la pluie tomba, et les fleuves se levèrent, et les vents soufflèrent et vinrent sur cette maison, et elle ne tomba point, parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle avait des fondations solides. Elle était inébranlable, quoi qu'il arrive. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Christ, en tant que charpentier et grand créateur qu'il était, devait en savoir long à ce sujet dans sa vie physique et dans sa vie avant de devenir un être humain. Tout comme le Père sait tout à ce sujet. Il est dit quelque part dans les psaumes que la terre est bâtie sur des fondations. Incroyable. Ces mêmes principes, vous savez, la gravité doit être prise en compte lorsqu'on construit quelque chose. Tous les principes de la physique ont été conçus par le grand constructeur, et les bâtiments sont soumis à ces principes de la physique. Enfreignez-les, et ils briseront le constructeur à chaque fois. Enfreignez-les, et ils enfreindront le constructeur à chaque fois. Et la pluie tomba, et les fleuves se répandirent, et les vents soufflèrent et vinrent sur cette maison, et elle tomba, et sa chute fut grande. Les gens ne quittent pas l'église sans raison, ni ne tombent dans un péché horrible et mettent en péril leur vie éternelle sans raison. Non, ils n'ont pas fondé leur vie sur ce que Christ explique que vous devez faire, que nous devons faire, ce que les apôtres et les prophètes, communiquant au nom de Dieu, expliquent que nous devons faire. Et, à terme, leurs fondations s'affaiblissent au point que le moindre souffle de vent peut détruire leur maison. Tout changement imprévu de température ou de conditions météorologiques peut être catastrophique. J'ai trouvé le récit d'une femme en ligne, un récit vraiment fascinant. Elle l'a publié dans un article de blog intitulé « Quand les fondations s'effondrent, une perfection inattendue ». Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce titre. Je pense que c'est peut-être le nom de son blog. Quand les fondations s'effondrent, et elle raconte ce qui lui est arrivé quand elle était adolescente. Je vais vous en lire quelques paragraphes. Les catastrophes naturelles ne sont pas subtiles. Elles surviennent avec une fureur imprévisible, laissant derrière elles destruction, dévastation et chaos. C'est ce que j'ai toujours cru. Et c'est ce à quoi nous pensons généralement lorsqu'un bâtiment s'effondre. Une tornade le balaye et l'arrache du sol ou détruit ses murs. C'est ce à quoi nous pensons généralement. C'est ce que j'ai toujours cru. Les tremblements de terre, les raz de marée, les ouragans, les tornades et autres catastrophes naturelles ont toujours fait l'objet d'une large couverture médiatique. Je connaissais bien ces histoires. Alors, quand des fissures sont apparues dans les fondations de la maison de mon enfance au printemps de mes 16 ans, je ne me suis pas inquiété. Elle a commencé à voir des fissures. Non, je veux dire, ce n'est qu'une fissure. C'est une vieille maison. Juste une fissure. La rue où je vivais, qui bordait une colline, avait légèrement changé de position par rapport à son emplacement d'origine, et plusieurs de nos voisins avaient remarqué de petites fissures dans leurs fondations et des mouvements de terrain. Voici quelques maisons, un lotissement ou une communauté qui n'ont pas été construits sur de la roche, si je peux reprendre les mots de Christ. Construits sur du sable, pour ainsi dire. Et que s'est-il passé? Le terrain est probablement en train de se tasser, c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, écrit-elle. Des spécialistes, comme les géologues du projet d'État, sont venus inspecter le terrain. Ils ont mesuré les fissures à l'aide d'un équipement spécial et ont examiné les 5 maisons de notre rue qui étaient touchées. Au début, ils n'ont pas dit grand-chose, alors j'ai supposé que tout irait bien, écrit-elle. Ces fissures capillaires dans les fondations, aussi subtiles et discrètes qu'elles puissent paraître, ont commencé à s'agrandir rapidement dès l'été. Imaginez donc que vous vivez dans votre maison et que vous voyez une petite fissure, que vous ne vous en occupez pas ou que vous vous dites « ce n'est pas grave ». Eh bien, nous vivons dans des maisons qui sont des logements temporaires. Si nous commençons à voir des fissures mineures, il ne faut pas les négliger. Elles ont donc commencé à s'agrandir rapidement à la fin de l'été. Les maisons ont été condamnées les unes après les autres. Les experts ont continué à surveiller le terrain, mais ils ne comprenaient pas ce qui causait le glissement du sol sous nos pieds. Lorsque notre maison a été condamnée, nous avons eu 24 heures pour évacuer. Environ une semaine après notre déménagement, un affaissement de 3 mètres séparait l'avant de nos fondations de l'arrière. La maison a donc été condamnée, on nous a dit quitter les lieux dans les 24 heures, et une semaine plus tard, la porte d'entrée et la porte arrière se trouvaient 3 mètres plus bas que la porte arrière, car les fondations avaient tellement craquelé. C'était mortel. J'ai ici une infographie que j'ai trouvée fascinante sur Internet, qui parle de l'importance d'une fondation solide, le sujet principal d'aujourd'hui. Il s'agit des 30 accidents les plus meurtriers liés à des structures, compilés par une entreprise de matériaux de construction. Tout au long de l'histoire, des défaillances structurelles causées par des matériaux de construction défectueux ou de fortes pluies ont entraîné l'effondrement de bâtiments, la rupture de barrages, l'effondrement de ponts, etc. Certains des plus meurtriers ayant causé la mort de centaines, voire de milliers de personnes. Elle passe en revue et répertorie certains des accidents les plus catastrophiques. L'amphithéâtre de Fidenée à Rome. En 27 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre, construit à moindre coût en bois, n'a pas pu supporter les 50 000 personnes venues assister aux jeux de gladiateurs, ce qui a provoqué son effondrement, causant la mort de 20 000 personnes. Une construction inadéquate. Portugal. 1809, pont d'Abarca, 4000 morts. Le pont était construit de manière unique, c'était un pont reliant des bateaux en bois entre eux, qui s'est effondré sous le poids des milliers de personnes qui fuyaient le Portugal lors de l'attaque française. Rupture de barrage. Voici un exemple en Italie, le barrage de Vajon en 1963. Après que le gouvernement eut rejeté les rapports indiquant qu'une partie du bassin était instable, un glissement de terrain a provoqué un méga tsunami dans le lac et envoyé une vague de 13 milliards de gallons d'eau par-dessus le barrage. Il a simplement ignoré les signes avant-coureurs qui pouvaient conduire à une catastrophe. En voici un autre, en 1995. Le grand magasin Sampou. 502 personnes ont trouvé la mort à Séoul, en Corée du Sud. Pendant la construction, le bâtiment a été transformé en grand magasin et plusieurs colonnes de soutien ont été supprimées. Cela a entraîné d'importantes fissures dans le toit lorsque de lourds climatiseurs ont été déplacés. Le propriétaire a refusé d'évacuer les lieux par crainte de pertes financières, et le bâtiment s'est effondré peu après, tuant 502 personnes. Et vous pouvez parcourir page après page des exemples de personnes qui ont généralement ignoré les signes avant-coureurs. Elles n'ont pas pris le temps de réparer les fissures, elles ne se sont pas souciées des fissures, elles se sont davantage préoccupées des pertes de revenus que des avertissements des ingénieurs, partout dans le monde. Silence, nous pourrions nous poser une bonne question, nous ferions bien de nous la poser. Y a-t-il des fissures dans ma façade? Est-ce que le revêtement de mon bâtiment souffre? Pour prolonger l'analogie, ai-je besoin d'un peu plus de polish dans ma vie? Un peu plus d'huile et de miel, comme nous l'avons appris au Spokesman's Club, pour vous, messieurs. C'est une bonne question. C'est une question importante. Ou peut-être, où puis-je améliorer ma structure? Comment puis-je m'améliorer dans tel ou tel domaine? Encore une fois, c'est une bonne question. Une question pertinente. Excellente question. Nous avons entendu un excellent message sur le service la semaine dernière. De merveilleuses questions. Et elles font également partie des fondations. Ne vous méprenez pas. Mais la question la plus importante est la suivante. Y a-t-il des fissures dans mes fondations? Ai-je certains doutes ou péchés qui me tourmentent et que je repousse sans vraiment m'y attaquer? Abordez-les immédiatement, mes frères. Ces fissures peuvent, en 24 heures, s'étendre. Et en une semaine, votre maison peut être tellement bancale que la porte d'entrée se retrouve 3 mètres plus haut que la porte arrière, alors qu'elle était parfaitement alignée auparavant. Nous devons nous attaquer aux problèmes fondamentaux dès que nous les voyons. Ils peuvent s'étendre. Ils peuvent s'étendre. Passons maintenant au principe suivant. Dieu, en tant que constructeur, recherche la perfection. Nous l'avons vu dans la façon dont il a conçu les fondations, mais il recherche la perfection. Matthieu chapitre 5. Silence, Dieu, en tant que constructeur, recherche la perfection. C'est sur cela que nous allons nous concentrer dans la suite de ce message. C'est très simple, facile à comprendre. Ce sont juste des leçons fondamentales tirées de la construction. Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sont là quelques-uns des mots même que Christ a utilisés pour construire son discours sur l'effondrement des fondations, la catastrophe fondamentale, que nous avons lu plus tôt. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Tout le monde salue ses amis et ses frères. Les publicains n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Heureusement, être est devenu être. Nous sommes en train d'essayer de devenir parfaits. Je me souviens du premier sabbat que j'ai observé. C'était dans une organisation dissidente. Mais l'homme qui m'a conduit au service, que je respecte beaucoup, m'a heureusement dit, ne t'attends pas à voir ici des gens parfaits, mais seulement des gens qui essaient de devenir parfaits. C'était un conseil utile pour un jeune de 18 ou 19 ans qui venait s'attendant à voir la Jérusalem céleste sur terre. Vous savez comment c'est lors de votre premier sabbat, on apprend que nous sommes tous des êtres humains à différents stades de notre évolution. Nous devons devenir parfaits, c'est-à-dire accomplis dans divers domaines tels que le travail, la croissance, le caractère mental et moral. Devenir parfait, et la norme est, comme notre Père céleste est parfait. Heureusement, nous avons de l'aide à cet égard. Nous n'y parvenons pas par nos propres moyens, comme nous l'avons entendu. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13 verset 20. En fin de compte, nous sommes ce que Dieu est en train de construire. Les êtres humains sont ce que Dieu est en train de construire. C'est sur eux qu'il se concentre. C'est leur raison d'être. C'est la raison d'être de toute cette construction physique qui nous entoure, pour nous enseigner certaines leçons afin que nous puissions devenir des êtres spirituels et échapper à ce monde physique. Mais il nous enseigne ces leçons à travers ce qui nous entoure physiquement. Nous sommes temporaires et capables d'apprendre ces leçons. Et si nous ne le faisons pas, malheureusement, certains périssent. Hébreux 13 verset 20 que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger de ses brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait dans tout ce que vous faites pour accomplir sa volonté, et qu'il fasse de vous une œuvre bien agréable à ses yeux. Il construit dans nos vies, mais nous y participons par Jésus-Christ, la pierre angulaire, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Maintenant, j'ai promis que nous reviendrions sur le fait que Christ est la pierre angulaire, et nous allons commencer à examiner cela. Nous pensons à Dieu, et maintenant nous le comprenons mieux que jamais. Et vous pensez à lui avec cette épée que nous connaissons maintenant, ou une lance étincelante, ou une trompette d'argent, des choses étonnantes que nous n'avions jamais vues auparavant. Il y a quelque chose que Dieu possède qui, selon moi, a encore plus de sens pour nous, une plus grande signification pour nous en tant que chrétiens. J'espère qu'aucun d'entre nous ne s'inquiète de voir Dieu venir et utiliser son épée contre nous. Je ne pense pas que ce soit une crainte rationnelle à l'heure actuelle. Si nous tombons entre les mains du Dieu vivant, c'est une chose terrifiante, et vous pouvez méditer là-dessus. Nous ferions tous bien, je pense, de méditer sur ce que signifie finalement s'éloigner de ce mode de vie, mais ce n'est pas là où je veux en venir. Il existe un outil que Dieu utilise et sur lequel nous, les chrétiens, devrions peut-être nous concentrer davantage, auquel nous devrions peut-être réfléchir davantage que, disons, son épée, sa trompette ou sa lance, quelque chose qu'il utilise actuellement dans nos vies auquel nous ne pensons probablement pas beaucoup. Or, Dieu se soucie beaucoup du monde dans lequel nous vivons. Nous savons que nous vivons dans une génération perverse et corrompue, comme le dit l'Épître aux Philippiens. Il n'aime pas les choses perverses. Nous avons vu qu'il aime les lignes tracées à partir de la pierre angulaire. Il aime les choses parfaitement carrées. Ouvrez votre Bible au chapitre 4 du livre de Zacharie. Le Père en Christ, ses bâtisseurs, ont certains outils. Zacharie 4, verset 6, il répondit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance d'un homme, ni par la force d'un homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, ô grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Il en mettra en place la pierre angulaire, au milieu des cris de joie, et l'on dira, grâce, grâce à la maison de l'Éternel. Verset 8. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées t'a envoyé. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Car ils se réjouiront et verront le niveau dans la main de Zorobabel avec ses sept. Ce sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Donc, un fil à plomb sera utilisé pour achever ses fondations, un fil à plomb. Qu'est-ce qu'un fil à plomb? Avant d'aborder cette question, passons à Ésaïe 28. Ésaïe 28. Dieu a un fil à plomb. S'il utilise un fil à plomb pour construire ses fondations, s'il utilise un fil à plomb pour construire sa maison, et que nous sommes des pierres vivantes sur ses fondations, dans cette maison, nous ferions bien de prêter attention et d'apprendre ce que cela signifie. Ésaïe 28, verset 14. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui dominait sur ce peuple qui est à Jérusalem. Parce que vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort, et nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons fait du mensonge notre refuge, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. Ce sont des gens qui ont bâti leur fondation sur du sable. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je pose en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une fondation solide. Celui qui croit ne sera point ému. Je ferai de la justice, de la vérité, le niveau, et de la justice, le niveau. Dieu utilise la mesure lorsqu'il s'agit de juger. Il n'est pas surprenant que Christ ait dit, la mesure dont vous jugez sera la vôtre, si je me souviens bien. Mais ce n'est pas notre sujet ici. Et la justice sera le niveau, Dieu jugera la justice à l'aide d'un niveau. La grêle emportera le refuge des menteurs, et les eaux inonderont leur retraite. Ici, un niveau signifie simplement attendre avec une corde attachée. Si vous avez déjà fait des travaux de construction ou de bâtiment, vous savez ce qu'est un niveau. En supposant que je parvienne à le démêler. J'ai fabriqué un fil à plomb rudimentaire hier soir. Dieu va prendre un fil à plomb. Je vais me mettre sur le côté. La gravité tire le poids vers le bas, et cette ligne est parfaitement perpendiculaire à la surface de la Terre. Si vous prenez un niveau et que vous êtes parfaitement à niveau, en supposant que cela ne vacille pas, vous obtenez un angle droit parfait. Dieu utilise un fil à plomb lorsqu'il recherche la justice. Il regarde nos vies et dit, « Bon, voici la norme. » Dans quelle mesure s'en écarte-t-il? Je pense qu'il parle ici d'Israël dans son ensemble. Dans quelle mesure mon fils ou ma fille s'écarte-t-il de la norme, de la ligne de fondation? Je ne dis pas cela pour décourager qui que ce soit. Aucun d'entre nous n'est encore parfaitement droit, parfaitement aligné dans ce temple. Mais c'est le but. C'est ce qu'il s'efforce de réaliser en nous, afin que nous soyons parfaitement droits, parfaitement alignés sur son mode de vie. Et nous savons que cela ne se fera pas à la perfection en tant qu'être physique. Mais lorsque nous serons transformés, lorsque nous serons changés, nous serons d'aplomb. Imaginez un peu, c'est un peu angoissant de penser que Dieu vient vers vous avec un fil à plomb et vous inspecte. Ma femme l'a fait avec moi, et je me suis dit, dois-je vraiment faire cela au frère? C'est un peu effrayant, mais c'est ce que Dieu fait. Il examine nos vies avec un fil à plomb. Le fil à plomb de la justice. Relisons le verset 17. Je jugerai selon la ligne, et la justice sera le fil à plomb. Ce qui est parfaitement juste. À quelle distance sommes-nous? 1 degré, 5 degrés, 10 degrés, où leurs fondations sont-elles solides? Est-ce vrai? C'est une image mentale très forte. Maintenant, Dieu est en train de terminer ce qu'il a commencé, et c'est ce qui est encourageant. Si nous sommes loin du droit chemin en ce moment, nous avons heureusement le temps de réparer nos fondations. Dieu n'est pas du genre à abandonner qui que ce soit. C'est nous qui devons abandonner, et c'est la dernière chose qu'il souhaite, ou que n'importe lequel d'entre nous souhaite. Nous devons terminer le projet. Luc chapitre 14. Alors que nous arrivons à la fin, nous avons tous les outils nécessaires pour achever l'édifice que Dieu construit dans nos vies. Tous les outils nécessaires. Luc 14, verset 25. Une grande foule marchait avec lui. Il se retourna et dit à ceux qui marchaient avec lui, si quelqu'un vient à moi et n'a pas haï son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il doit me donner la priorité. La haine, c'est aimer moins. Bien sûr, vous ne voudriez pas les détester, sinon cela serait contraire à ce qu'il a dit ailleurs. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Lorsque nous avons été baptisés, nous avons calculé les coûts. Nous avons vu cette récompense formidable et puissante qui nous attendait. Nous avons médité, nous avons appris ces promesses formidables que Dieu nous fait, et nous avons décidé, tu sais quoi? Avec l'aide de Dieu, je suis prêt à tout faire dans cette vie pour atteindre cet objectif. Nous avons calculé les coûts, mais nous devons continuer à le calculer. Alors que nous continuons à construire, qui d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit incapable de l'achever, et que l'on se mette à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, partant en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour consulter s'il peut, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000? Ou, si l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. De même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Dieu aime mener à bien ses projets. Il est dit dans Job, il aura envie de l'œuvre de ses mains. Un jour, nous serons complets. Un jour, bientôt, espérons-le, nous serons complets. Nous devons continuer à compter sur Dieu, continuer à examiner les fissures dans nos fondations. Continuons à examiner où nous pouvons rénover et améliorer notre structure. Continuons à déterminer où nous ne sommes pas en accord avec le mode de vie de Dieu. En désaccord avec les fondements des apôtres et des prophètes, où nous pouvons ressembler à la génération tordue et scoliotique, où nous ne pouvons pas nous placer à côté du fil à plomb de la justice et dire, oh, l'examen de conscience ne se fait pas seulement avant la Pâque. Il peut être facile de penser que nous n'avons pas ce qu'il faut, mais considérer que nous sommes associés au plus grand bâtisseur de l'éternité. Quand il a construit tout ce qui nous entoure et qu'il promet de nous guider à chaque pas, si nous comptons sur lui. Si nous étudions notre orientation par rapport à cette pierre angulaire et à la fondation plus grande qui existe, et si nous faisons des erreurs, il peut créer d'autres choses dans notre vie. Nous ne voulons pas faire d'erreurs. Nous avons entendu la semaine dernière, nous avons lu le psaume 51, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Il peut le faire parce qu'il est le Créateur ultime. Une dernière citation pour conclure. Ésaïe 45. Avec le constructeur ultime à l'œuvre dans nos vies, avec ses éléments fondamentaux, sans jeu de mots, de construction dans notre esprit, nous ne pouvons pas échouer. Ésaïe 45. Voici Dieu s'adressant à Cyrus. Regardez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour assujettir devant lui les nations, pour délier les reins des rois, pour ouvrir devant lui les portes de deux feuilles, et pour que les portes ne soient point fermées, je marcherai devant toi, et j'aplanirai les endroits élevés. Je briserai les portes d'airain, et j'abattrai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres, et les richesses enfouies dans des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle de ton nom, et que je suis le Dieu d'Israël. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Non pas qu'il nous utilise de cette manière aujourd'hui, mais à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, ce grand roi perse que Dieu a utilisé pour accomplir son plan. Je t'ai donné un nom, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, il n'y a point de Dieu que moi. Je t'ai saint, et tu n'étais pas connu. Il est prêt à aider un homme comme celui-ci qui ne le connaît même pas. À combien plus forte raison nous, frères? Afin qu'on sache, depuis le lever du soleil et depuis l'Occident, qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée le malheur. Je suis l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Je suis responsable de tout, dit Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'il dit ceci, cieux, répandez d'en haut la justice, que la terre s'ouvre et que le salut se manifeste. La justice et le salut. La justice qui est mesurée à l'aide du fil à plomb dans sa main et le salut que la pierre angulaire a apporté. Que la justice germe ensemble, moi, l'Éternel, qui l'ai créé. Dieu a créé la justice. Dieu a créé le salut. Dieu a créé ce plan dont vous et moi faisons partie. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir avec son aide dans la poursuite de ce salut, dans la poursuite de cette justice, et finalement, nous serons libérés de ce corps de mort, comme le dit Paul, et nous ne serons plus soumis au péché. Malheur à celui qui lutte contre son Créateur, contre son Bâtisseur, pourrions-nous dire. Heureusement, nous ne luttons pas contre notre Créateur. Nous comptons sur notre Créateur. C'est pourquoi nous attendons avec impatience ce nouveau corps qu'il a préparé pour nous, cette nouvelle vie qu'il a préparée pour nous, cette nouvelle place dans son plan qu'il a préparé pour nous. Frères et sœurs, travaillons sous la direction du grand bâtisseur pour construire dans nos vies ce qui est nécessaire pour être dans cette ville, pour être dans cette ville éternelle des, pour demeurer dans l'éternité, avec celui dont l'habitation, comme le dit Ésaïe ailleurs, est l'éternité. Il est sur le point de dévoiler l'œuvre qu'il a accomplie en chacun de nous.